8h44 à Paris, 6h44 en temps universel. On passe à la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, la calmie entre Paris et Alger.
C'est simple comme un coup de fil, un vieux slogan publicitaire remis au goût du jour apparemment par les présidents français et algériens. Emmanuel Macron a décroché son téléphone en effet lundi pour appeler Abdelmadjid Tebboune, un échange pour le moins fructueux, rapporté ainsi par le quotidien El Moudjahid à Alger. Emmanuel Macron a adressé au président Tebboune ainsi qu'au peuple algérien ses meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Et ils sont convenus, lors d'un long échange franc et amical, de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire entre les deux pays et du travail de la commission mixte des historiens. Un coup de fil donc qui semble effacer des mois et des mois de brouille entre les deux pays.
Est-ce la fin de la crise entre Alger et Paris, s'interroge le site Algérie 360.
Eh bien apparemment oui, quand on examine les décisions prises, la reprise immédiate de la coopération sécuritaire entre les deux pays, le rétablissement sans délai de la coopération en matière migratoire, la volonté de poursuivre le travail de la commission mixte des historiens essentiels à la réconciliation, la relance des échanges et des initiatives communes dans le cadre de la coopération judiciaire avec une prochaine visite en Algérie du ministre français de la Justice Gérald Darmanin. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra également à Alger dès dimanche. Une rencontre est aussi prévue entre les deux présidents. Enfin, note Algérie 360, au cours de la conversation, Emmanuel Macron a évoqué le cas de l'écrivain Boualem Sansal, récemment condamné à 5 ans de prison ferme. Il a exprimé sa confiance dans la sagesse de Tebboune et a plaidé pour un geste de clémence en raison de l'âge et de l'état de santé de l'écrivain.
Pour TSA, autre site d'information algérien, c'est une immense surprise.
Oui, les deux chefs d'État ont acté la fin de la crise algéro-française, 8 mois, jour pour jour, après son déclenchement, le 31 juillet dernier, suite à la décision du président Macron de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Fini la brouille entre Tebboune et Macron. Oubliez le Sahara occidental, s'exclame pour sa part Le Matin d'Algérie, site d'information plutôt critique envers le pouvoir algérien. Qu'est-ce qui a changé depuis pour arriver à ce revirement à 180 degrés ? Rien, hormis que Tebboune a mangé son chapeau, affirme Le Matin d'Algérie. Cet échange téléphonique marque un pas vers l'apaisement mais ne règle pas la question de fond, la question du Sahara occidental, qui reste un point de désaccord majeur entre Alger et Paris. Le site Algérie Patriotique reste méfiant, justement, sur cette question du Sahara occidental. Que signifie, s'interroge-t-il, la formule utilisée par l'Élysée selon laquelle les deux pays sont attachés à la légalité internationale? La France va-t-elle faire machine arrière dans le dossier sahraoui et se conformer désormais aux résolutions de l'ONU en ne reconnaissant plus unilatéralement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental?
Il est vrai, pointe Le Monde Afrique, que la question du Sahara occidental déclencheur de la crise ne figure pas explicitement dans le communiqué conjoint.
Oui, le 30 juillet 2024, Emmanuel Macron avait reconnu que le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine, ce au grand dam des Algériens. Il est hautement invraisemblable, poursuit Le Monde Afrique, que Paris revienne sur cette reconnaissance que le chef de l'État français avait réitérée lors de sa visite à Rabat en octobre 2024. La référence à ce dossier sahraoui affleure dans le communiqué de manière très allusive à travers le rappel de la légalité internationale au nom de laquelle Alger réclame rituellement la tenue sur place d'un référendum d'autodétermination. Enfin, Le Monde Afrique relève aussi que le communiqué commun des deux présidences évoque donc le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné le 27 mars à 5 ans de prison ferme, au bénéfice duquel Emmanuel Macron espère un geste de clémence et d'humanité de la part d'un président Tebboune crédité de clairvoyance. La rumeur avait couru avec insistance ces derniers jours, rapporte encore le journal, de l'éventualité d'une grâce de sa part, scénario qui paraît désormais plus que vraisemblable.
Dans une demi-heure, Frédéric, la revue de presse internationale est à la une, 25 heures de discours anti-Trump.
Oui, les journaux, notamment américains, reviennent en effet sur le discours fleuve du sénateur démocrate Cory Booker, nouveau champion de l'opposition à Donald Trump.
Merci Frédéric Couteau, à tout à l'heure, 8h48 à Paris.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
À la une ce 2 avril, le président américain s'apprête à dégainer de nouveaux droits de douane. Donald Trump promet un jour de la libération et l'impact sur l'économie mondiale pourrait être très très conséquent. En Birmanie, les secours parviennent encore à secourir des victimes du séisme. Un homme vient d'être retrouvé vivant 5 jours après dans les décombres d'un hôtel à Naypyidaw, la capitale. Le bilan continue aussi de s'alourdir avec plus de 2700 morts dans le pays. En Guinée, la junte fixe le référendum sur la constitution au 21 septembre prochain. Le général général Mamadi Doumbouya, à la tête de la junte, avait promis dans ses vœux du nouvel an que 2025 serait une année cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Encore un espoir d'être candidate en 2027 en France. Marine Le Pen pourrait être jugée en appel à l'été 2026, selon la Cour d'appel de Paris, alors qu'elle vient d'être condamnée à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. L'acteur américain Val Kilmer est mort à 65 ans. Il était connu pour ses rôles dans les films Top Gun ou encore Batman Forever. Et puis on connaît les noms des 12 nommés pour le prix Marc Vivien Fouet, prix de RFI et France 24, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 en France. Le favori, c'est le Marocain Achraf Hakimi. Amadou Ndiko a été détenu pendant 3 mois au secret en dehors de toute procédure légale au Mali. Il est actuellement président de la jeunesse Poulakou International, ancien président de la section jeunesse de Tabital Poulakou Mali, des associations communautaires Peul de défense des droits humains. Du 16 décembre 2023 au 11 mars 2024, il raconte ses 3 mois de détention, un témoignage inédit car les personnes libérées ont pour consigne de se taire. Invité d'Afrique Matin, Amadou Ndiko, désormais en exil hors du Mali, répond aux questions de David Baché.
Amadou Ndiko, bonjour.
Bonjour.
Lorsque la sécurité d'État vous a enlevé, vous vous apprêtiez à lancer une nouvelle association internationale de jeunes de la communauté Peul. Est-ce que c'est pour ça que vous avez été détenu pendant 3 mois ?
Effectivement, j'étais en train d'organiser le premier congrès de la jeunesse Poulakou internationale. J'ai été enlevé à la veille même du congrès. Dans l'interrogatoire, il a posé la question pourquoi je voulais organiser ce congrès, si c'était pour déstabiliser la transition. Et aussi, comme je faisais beaucoup de dénonciations contre les exactions commises par les forces armées de sécurité contre les civils Peul, il y avait cela aussi. Et il m'accusait aussi directement d'être en complicité avec certains groupes armés terroristes.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, les circonstances de votre enlèvement ?
Après avoir été convoqué le 14 à la direction de l'ANSE.
Le 14 décembre 2023 à la Sécurité d'État.
À la Sécurité d'État, où ils m'ont intimidé et m'ont demandé de surseoir à la conférence de presse. À la veille du congrès, aux environs de 0h, je voulais rentrer chez moi et plusieurs véhicules, 4 m'ont intercepté et m'ont bloqué la route. Ils étaient nombreux, mais en civil. Il est venu vers moi et il m'a fait entrer dans sa voiture et il a démarré. Il a demandé à celui qui était à côté de moi de mettre la cagoule.
Pendant ces 3 mois de détention, quelles étaient vos conditions, votre rythme de vie ?
Ils m'ont gardé dans une chambre annexe d'une maison. J'ai trouvé un matelas, des couvertures. Et il y a un autre dans une autre chambre que je n'ai jamais vu. J'étais très mal nourri. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je ne suis jamais sorti à part les 2 fois qu'ils voulaient m'interroger.
Et le reste du temps, on vous laissait dans votre chambre ?
J'étais dans ma chambre seul. Quand ils rentraient, je devais mettre la cagoule. Je ne voyais personne. Je n'ai jamais vu une personne étant là-bas. J'étais seul, séquestré, isolé. Pendant 3 mois, j'avais même le rêve de voir juste le soleil ou le ciel.
D'autres prisonniers de la sécurité d'État, une fois libérés, ont raconté à des proches ou à leurs avocats avoir subi des tortures, coups, décharges électriques, simulations de noyade. Heureusement, cela n'a pas été votre cas.
Heureusement, moi, je n'ai pas été torturé, je n'ai pas été frappé. Seulement, j'étais affamé et isolé, séquestré et loin de ma famille. C'était psychologique, ça me fatiguait parce que je ne voyais pas un être humain. J'avais juste envie de voir une personne en face de moi.
Comment se sont passées vos séances d'interrogatoire ?
Quand ils venaient pour m'amener dans le salon d'interrogatoire, ils étaient 3. Quand ils tapaient à la porte, je devais mettre la cagoule, donc je ne pouvais plus les voir. Ils m'ont sorti de ma cellule, ils m'ont amené dans un petit salon où ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils sont sortis et ils m'ont laissé avec leur chef qui devait m'interroger.
Et sur quoi est-ce que vous avez été interrogé ?
Ils m'ont demandé pourquoi je voulais organiser ce congrès, pourquoi je suis avec Amadou Koufa.
Moi,
je suis
Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina du Jnim lié à Al-Qaïda.
Oui, exactement. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi moi je le représente à Bamako. J'ai été très surpris. J'ai dit comment moi je peux être le représentant de Koufa et être à Bamako. Ça ne corrobore pas.
Donc ils vous accusaient d'être un complice des groupes djihadistes.
Exactement. Ils m'accusaient d'être complice, en même temps être avec les puissances occidentales telles que la France. Et surtout, j'étais en contact avec la Radio France Internationale.
Donc vous avez aussi été interrogé sur vos liens avec des journalistes de RFI ?
Bien sûr, ils m'ont demandé si j'étais en contact avec David Baché, exactement. Heureusement, je n'étais pas en contact avec David Baché. Je
n'avais pas encore.
Ils m'ont demandé pourquoi j'ai dénoncé les exactions commises par Wagner. Moi, j'ai dit que je suis malien contre l'impunité, c'est pourquoi j'ai dénoncé.
Amadou Ndiko, au bout de 3 mois, vous avez finalement été relâché par la sécurité d'État. Pourquoi ? Comment ?
J'ai décidé de ne plus manger. parce que j'étais fatigué, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je n'ai commis aucun crime, j'ai décidé de ne plus manger. Quand ils ont constaté ça, ils sont venus pour me dire que Amadou, si tu ne manges pas, on va te présenter à un juge, tu seras à la maison centrale d'arrêt de Bamako, et là-bas, ce n'est pas facile. J'ai dit, je préfère être là-bas parce qu'au moins, je vais prendre un avocat, mes parents sauront où je suis. Donc, ils ont compris que ça ne va pas m'empêcher de continuer la grève de la faim. Le 11, c'était le premier jour du Ramadan. Ils ont toqué à la porte et ils m'ont demandé de prendre mes affaires. Je n'avais pas des affaires, je n'avais que mon boubou. Donc, ils m'ont sorti et ils m'ont amené jusqu'à vers Bouziba.
Un quartier de Bamako.
Ils disent qu'aujourd'hui, on va te libérer, mais voici les conditions. Les conditions, c'est de collaborer, de ne pas dénoncer, de travailler avec eux.
Ils ont proposé de travailler pour la sécurité d'État.
Je n'ai pas accepté, c'est pourquoi j'ai décidé de partir, parce que je ne pouvais pas rester et ma vie était en danger.
Aujourd'hui, pourquoi tenez-vous à témoigner de ce qui vous est arrivé?
Parce que on voit que les enlèvements continuent de plus belle. Il faut que ça cesse, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un pays de droit. S'ils te reprochent de quelque chose, il y a la justice.
Amadou Ndiko, merci.
Le témoignage d'Amadou Ndiko, président de la jeunesse Poulakou International, avec David Baché. Maman, hier, c'était le 1er avril, jour des canulars et des poissons.
Oui, attention, chers amis, ce que je veux vous dire n'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril est triste, il a le cafard. Le 1er avril est dépassé. Et oui, le jour le plus rigolo du calendrier n'a plus la tête à plaisanter. Attends, depuis toujours, le 1er avril a été le jour des canulars, le jour où tous les plaisantins, les farceurs du monde, avaient carte blanche pour faire les blagues et les farces les plus farfelues, les plus improbables. Et on devait rigoler lorsqu'ils lançaient à la cantonade Poisson d'avril. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, tous les jours sont devenus le 1er avril. Aujourd'hui, c'est farce et attrape à volonté à tous les coins de rue. Aujourd'hui, on entend ceux qui ont connu cet âge d'or du 1er avril exprimer leur incrédulité devant l'actualité du monde. Mais c'est pas possible. C'est le 1er avril ou quoi? Eh oui, aujourd'hui, partout où tu regardes, partout où tu traînes les oreilles, c'est le 1er avril parce qu'en cette ère des fake news, du deep fake et de la désinfo, le 1er avril est juste devenu une curiosité à ranger dans les musées sur le rayon du haut entre les dinosaures et l'homme de Cro-Magnon. Les fake news ont noyé le poisson d'avril. Bah oui, quand le 1er avril était au pic de sa forme, au temps vieux bon, tu pouvais dire à quelqu'un « regarde ce gars-là, condamné à plusieurs reprises pour délit de falsification comptable, agression contre des femmes, diffamation, eh ben élu 2 fois président du pays le plus puissant du monde. » Tu disais ça à quelqu'un, à l'époque, ben, il rigolait et te rétorquait. Ah oui, heureusement qu'on est le 1er avril. Même les médias jouaient le jeu au temps du 1er avril. Les auditeurs, téléspectateurs et lecteurs attendaient impatiemment ce jour de gag pour découvrir les fruits de l'imagination des journalistes qui inventaient les infos les plus farfelues pour jauger la crédulité et la vigilance des gens. Et ceux qui tombaient dans le panneau étaient gentiment moqués pour leur innocente imprudence. Aujourd'hui, c'est tous les jours le 1er avril, mes amis. C'est tous les jours sur les réseaux sociaux et dans les médias que certains ont fait leur métier de te concocter les fake news les plus incroyables. Et il y en a qui croient quoi que tu dises. Attends, c'est
mon meilleur ami qui a partagé ça sur son mur. Je le connais. Il peut pas mentir. Quand le 1er avril était open bar pour tous les farceurs, tu pouvais dire à quelqu'un « Hé, regarde, il y a eu élection, mais c'est pas le gagnant qui va former le gouvernement. Hein. » Tu vas rigoler et lui rétorquer qu'heureusement on est le 1er avril. Aujourd'hui, c'est tellement le 1er avril tous les jours mais qu'il faudrait inverser les choses et faire du 1er avril l'exception, le jour où on dirait les vraies infos. Ce jour-là, tout ce qu'on lirait et entendrait partout ne serait que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous ai eu, hein? Poisson d'avril. À demain.
À demain, Maman. Et à suivre sur RFI, un nouveau journal à la une, ces nouveaux droits de douane promis par Donald Trump.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème L'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique événements, le 29 avril prochain à Paris, en partenariat avec RFI.
Salut, c'est Assalfo. Et revoilà le FEMIA. La 17e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo vous attend du 15 au 20 avril prochain à Abidjan et Daloa sous le thème civisme et sécurité routière. Cette année, vous aurez Angélique Kidjo, Caris, Smarty, Takana Zion, José Imra et plein d'autres artistes pour mettre l'ambiance. Le FEMIA, c'est aussi le volet social avec l'inauguration des écoles primaires Magic System de Badika, Jacquesville et San Pedro.
En partenariat avec RFI. Anoumambo
est béni. C'est ça qui est la vérité.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Il y a trois sortes d'humains, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. Ces mots d'Aristote, le romancier Christophe Onodibio les reprend à son compte dans Mer intérieure. Entre souvenirs d'enfance, références littéraires et mythologie marine, une déclaration d'amour à la mer.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'occasion du festival Quai du Polar qui se tient tout le week-end à Lyon, je reçois l'une des invitées, l'écrivaine américaine Lisa Gardner, dont le nouveau roman policier raconte une randonnée cauchemardesque en forêt où tous ne rentreront pas vivants. Un thriller intitulé « Dernière soirée ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.